le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écoutait. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Au fond de ma gorge, j'ai senti comme un battement d'ailes étouffées. J'ai avalé la clé et l'oiseau prisonnier a pu déverrouiller mon gosier. Et par ma bouche, il s'est envolé en sifflotant son chant de liberté. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue.
Quartier libre. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Alors, on ne salue plus, a demandé le commandant. Non, on ne salue plus, a répondu l'oiseau. Ah bon, excusez-moi, je croyais qu'on saluait, a dit le commandant. Vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper, a dit l'oiseau.
Liberté. En cette rentrée, rien qu'une envie avec en fond comme un goût de nécessité, liberté. C'est un bien grand mot. On aimerait bien qu'il soit plus léger, comme une caresse de plume, une évidence, un peau à peau. Liberté. Comme une envie d'aller se dessiner une porte, ou une fenêtre, ou même une simple lézarde dans le mur de nos temps éméchés. Comme un entrefilet, à fil décousu, offert à la liberté. Il paraît que tout a commencé par une bouche de femme, par la bouche de Morissette. Bon, Morissette, quand elle est née, on l'a appelée Morissette. Ça, c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Aujourd'hui, Morissette, elle est vieille. Elle est tellement vieille que les années se fatiguent même plus à compter. Elle est toute bouffie, toute croche, toute bosselée, toute chiffonnée. Elle n'a plus une dent, mais elle parle, 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 parle. Sans s'arrêter. C'est pas compliqué de la trouver, Morissette. Elle est toujours au même endroit, toujours sur la même place, et là, elle raconte, sans jamais se taire. Le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver. Morissette, il y en a qui te diront qu'elle est complètement folle. Mais il y en a d'autres qui te diront, mais non, pas du tout. Morissette, elle est pas folle. Elle est là depuis le début, Morissette. C'est la mère vieille du monde. Et puis, c'est par sa bouche que tout a commencé. On raconte qu'au jour de sa naissance, au moment d'ouvrir les yeux, il y a toute la lumière du monde qui y est rentrée d'un coup, comme ça. Et puis toute la beauté du monde avec. Et Morissette, elle s'en est trouvée pleine. Et elle a aimé ce monde tellement fort. Et puis le temps a passé. Puis elle a regardé les hommes. Elle les a vus tout aveuglés, qui arpentaient ce monde sans le voir, tout occupés à se faire beau, important, à s'y trouver une place, tu sais, se séduire, se dominer, se haïr, se détruire. Et Morissette, elle a trouvé ça triste. Elle a juste voulu leur apporter sa petite goutte de miel pour les adoucir. Mais comment faire? Et là, dans sa tête, la question a fait comme le Big Bang. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Et toutes les particules de questions éclatées aux mille coins de sa caboche se sont mises à tourner sur elles-mêmes, chaudes, bouillantes. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Et les particules se sont rapprochées, agglomérées les unes aux autres en tournant avec la force centrifuge. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Et à la surface, la matière a commencé à se refroidir à force de tourner. Et elle a plongé au cœur bouillant. Et en se dilatant, elle est remontée parce qu'elle était plus légère, mais à la surface, elle refroidissait, durcissait, replongeait, remontait, replongeait, remontait. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Et puis les gaz en se mêlant sont devenus pluie, puis là, la vie a émergé. Amibe, puis crevette, et puis de plus en plus complexe, poisson, lézard, grand singe de questions. Et tout en se cherchant comme des perles dans sa bouche les unes aux autres, les paroles ont commencé à se fabriquer, à fabriquer leur collier de mots et c'est sorti d'un coup, c'était mûr. C'est sorti comme un trait de sa bouche. Le tout premier conte des tout premiers contes, c'est comme ça qu'il s'est fabriqué. Le tout premier récit d'humanité jaillissait enfin de la bouche de Morissette et c'était beau. Mais seulement, elle était toute seule, il n'y avait personne sur la place. Les hommes, eux, ils étaient occupés à autre chose. Mais le chant s'est mis à ricocher aux parois de la place et à mettre toute la ville en vibration. Et là, tout le monde a senti qu'il se passait quelque chose d'important quand même. Et comme un appel à l'unisson. Alors, comme aimantés par cet appel, ils sont tous sortis de chez eux. Et autour de la source, sur la petite place, ils se sont mis à tourner encore. Et chaud, bouillant. Et la place était noire de monde qui tournait, bercé au récit qui émergeait de la bouche de Morissette. Et ça, c'était vraiment magnifique. Et ça a duré. Ça a duré un temps, hors du temps, un temps infini, suspendu. C'était un temps de beauté pure, comme un âge d'or. Et le monde lui-même s'est retrouvé plein de ce chant, en rondeur de gestation fécondée par les mots de Morissette, le monde, depuis cette toute petite place. Et le monde se préparait à accoucher de sa part la plus belle, tandis que sur la place, tout le monde écoutait. On était en train d'assister à quelque chose de fort, vraiment, quelque chose de beau. La naissance de l'humanité en l'homme, on était à rien d'une vraie naissance. C'était pas loin, hein. Vraiment pas loin. Puis il a fallu trois fois rien. Un petit grain de poussière, un microbe, une pécadille, tu vois, une paille, enfin, juste un petit flocon de maladie pour que la place se vide d'un coup et que les hommes aillent se claquemurer. Morissette, elle s'est retrouvée toute seule sur la place. Alors elle a fermé ses yeux, puis elle a continué, dans le bercement de sa cécité, à raconter juste pour elle-même et se laisser simplement porter par ce qui devait naître d'elle et trouver son chemin. Là, elle a senti une toute petite main sur son bras. Alors, elle a ouvert les yeux et il y avait une petite gosse qui se tenait là, à côté d'elle. Tu fais quoi ? Je raconte. Ouais, mais il n'y a personne qui t'écoute, là. T'es toute seule. Tu racontes à qui ? Il y a toi. Alors, je raconte à toi, tu sais. Au début, je voulais changer le monde et puis le cœur des hommes. Mais le monde, quelle affaire ? Puis les hommes, c'est pas mieux. Alors maintenant, tu vois... Je raconte à toi, tant que t'es là et si tu veux, puis quand tu seras parti, je vais continuer à raconter quand même. Oh, pas pour changer le monde, va, non. Juste pour que ce monde-là, ne me change pas.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. Frapper à ta porte l'infinité de destin en nous posant et qu'est-ce qu'on en retient.
Ça s'est passé dans un tout petit pays, au nom qui n'a pas grande importance. Là, c'était installer un despote, oh, juste pour le plaisir de despoter, tu vois, et pour despoter, bah, ça despotait. Il a d'abord rongé tous les liens de confiance des hommes et des femmes, ça c'était facile. Il leur faisait juste perdre la tête. Allez, hop là, tu pensais pas comme lui et hop là, un mot de trop, zou, et la tête qui lui revenait pas et zou, et parfois sans raison, hop. Il les faisait voler tourneboulet cul par-dessus tête, allez, hop. Il a pris quelques têtes bien creuses, bien bêtes, qu'il a mis à des points stratégiques pour diriger, et puis le tour était joué, tu vois. Le pays suffoquait en apnée sous la bêtise, et le tyran, lui, il se boursouflait d'aise. Puis un jour, il y a un conseiller qui vient le trouver. « Votre Excellence, le pays est sous votre coupe et tous sont dominés par la peur, mais nous savons de sources certaines que des foyers de résistance s'organisent en secret dans les lieux d'instruction. » Ah ! Ah ben, c'est simple, qu'on ferme toutes les écoles. Alors on a fermé toutes les écoles, c'était simple, effectivement, puis c'était efficace aussi. Et le temps est passé. Mais le conseiller revient, finalement. Votre Excellence, il paraît que la lecture se transmet toujours. Et la connaissance aussi, ils réfléchissent. Il paraît que ceux qui savent encore lire sont en train d'apprendre à ceux qui ne savent pas. Ah, eh bien, c'est simple. Qu'on brûle tous les livres. Alors on a pillé, empilé et mis le feu à tout ce qui portait écriture. C'était simple, hein, effectivement, et c'était efficace aussi. Et puis le temps passe. Et le conseiller des boules affolées. Votre Excellence, des conteurs ont gardé la mémoire de l'essentiel. On dit qu'ils continuent d'instruire et de transmettre par leurs récits. Ah, oui. C'est simple. Qu'on interdise les conteurs et hop là. Seulement le soir, dans le secret des maisons, les mères raconter encore les vieilles légendes à leurs enfants pour les endormir et pour peupler leurs rêves. Mais qu'on interdise les rêves, ça c'est impossible. Alors qu'on tue toutes les femmes puisqu'elles en sont la source. Votre Excellence, vous n'y pensez pas. Tuer toutes les femmes, vous condamnez le pays à s'éteindre. On ne peut pas faire ça. Ah, oui. Bah, c'est simple. Alors qu'on les cache. Et puis qu'on les enferme et puis qu'on les fasse taire. Tiens, qu'elles sachent bien que je ferai couper la langue à celle qui osera enfreindre cette loi de silence. Alors on a caché les femmes sous des tissus. Il n'y avait plus que leurs mains qui dépassaient, tandis qu'elles lavaient, préparaient les repas, s'activaient. C'était simple, effectivement, et puis efficace aussi. Et le temps passe. Et puis un jour, le conseiller des boules, Votre Excellence, je sais de source sûre qu'une vieille a trouvé le moyen d'enseigner encore. Elle apprend à lire et à écrire aux enfants en traçant des mots sur le sable. Et une fois la leçon terminée, ils effacent les traces. Ah, c'est simple. Qu'on me présente cette vieille folle. Et le despote rassemble son peuple. Et on fait venir la femme ligotée. Il arrache le tissu de son visage et contemple sa peau fripée et ravinée. Et dans les yeux de la vieille, au fond de son regard noir, le despote saisit un éclair qui le fige. Il y a dans les yeux de cette femme quelque chose qui dit pas son nom, mais qui se laissera pas attraper. Alors, vieille folle, il paraît que tu enseignes. Tu te crois donc savante ? Non, répond la femme. Non, je sais peu de choses. Non, je fais juste ma part. Ah ! Bah alors voyons, de quelle source jaillit ton savoir? Tiens, je vais te poser une question, et si tu sèches, je te coupe la tête. Et puis je coupe la tête à tous ces enfants à qui tu prétends enseigner. Devant le despote, il y a un petit feu qui brûle. Avec une pince, il prend une braise rougeoyante, et puis il la jette dans une cruche remplie d'eau. Voilà ma question, vieille folle. Peux-tu me dire lequel de la braise ou de l'eau a fait ce son « pshhh » que tu viens d'entendre ? Oh, il me semble que c'est un peu des deux. Oui, oui, mais dans quelle proportion exacte d'intensité sauras-tu me le dire, ça, la vieille ? Là, la vieille se sait perdue. Elle se tord les mains sous son vêtement. Puis brusquement, elle pense à ses enfants qui vont aussi avoir la tête coupée. Et là, elle sent que ça monte. La colère la prend. Une colère comme un torrent puissant qui déchire toutes les digues et qui se répand hors de contrôle. Alors la femme avance, à hauteur du despote. Elle s'incline humblement et d'un coup se relève, lève son bras et de toute la force de sa colère, sa main, chla, vient frapper la joue du despote. Et maintenant, mon gamin, peux-tu nous dire qui de ma main ou de ta joue a fait ce clac que tu viens d'entendre et surtout dans quelle proportion exacte d'intensité ? Le despote recule en se frottant la joue, il a l'air d'un pauvre gosse ahuri. Et le peuple présent qui vient d'assister à la scène, d'abord sidéré, éclate enfin d'un rire d'une telle ampleur que ce rire les délivre de leur peur, ils sont tellement nombreux, et le rire perce les tympans des généraux, des espions, du despote, et les pousse au-delà du royaume, et le rire perce tous les murs, les carapaces se muent en cris, puis en chants, et puissamment comme une eau vive hors de contrôle, ils se répandent par le pays en une fête de joie, de danse, de musique et de partage. On raconte que dans ce pays-là, on y danse encore.
J'ai tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit.
J'ai reçu ce conte Peul du Sénégal des bouches des conteurs Eugène Guignon et Jennifer Anderson qui en racontent tous deux de très belles versions. Je l'ai tourné 7 fois dans ma bouche et puis là, il a trouvé son chemin tout simple. Je le remets sous la pierre pour le suivant.
La bicise est un parlava de bon matin al porta mentre da sola sperave gli ascaros veien passar. Sizet que no veus l'estaca, on estes tots ligats. Si no podrem desfersar, mai no podrem caminar. Si estirem, tot seria el caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, encurcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba i es podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans et van escoltar. Quan la força s'ha mandat, ell és sant peix més gran. Benxer se que està podrida, pres que si et costa tant. Que quan la força m'oblida, tornem a dir al teu cap. Si estirem, tot seria el caurà. Segur que tomba i es podem anar. días podré maribar.
On a condamné le vieux Sun au mur pour avoir mal enseigné son prince. Dans ce pays, le condamné au mur doit rester jusqu'à sa mort devant la même façade, sans bouger, sans se retourner. On a condamné le vieux Sun au mur pour avoir mal enseigné le prince. Il ne lui a rien dit des guerres, mais il lui a appris les arts. Il en a fait, par ses temps barbares, un mauvais despote. On lui a crié « vieux fou ». Jusqu'à ta mort, tu ne verras plus que ce ventre de torchis plein de terre et de paille. Tu ne feras plus, avant l'aube, d'autre chemin que celui de ta cellule au muret, à la nuit tombée, de ce mur à ta cellule. Ainsi tu pourriras devant tous. Ta déchéance sera publique. » C'est bien, a dit Sun, qu'il en soit ainsi. À moins que tu ne préfères la mort, je préfère la vie. La nuit seulement, il pourra rentrer entre les quatre murs de sa prison, s'étendre et dormir par terre sous un toit. Pauvre Sun, lui qui aimait si fort la mer qu'il pouvait passer des heures à regarder son tissu noir découpé par la lune, lui qui parlait des mouettes comme de mailles lâchées dans le corsage du ciel bleu. Sun ne baissa pas les yeux devant la lézarde qui barrait la façade. Au bout de quelques jours, il se mit même à lui sourire. Il voyait là ce que personne n'aurait vu, en haut de cette fente, le nid d'une mésange, et au ras du sol celui des guêpes. Une plaque de mousse passait de l'ombre au soleil, chaque jour à la même heure, tantôt visqueuse d'humidité et tantôt sèche et morte. Du vert bleu, au bleu jaune, de l'ocre au gris ardoise, et le balai recommençait du matin au soir. Une colonie de fourmis montait sur la lèvre gauche de la fissure et traversait deux fois avant de se bousculer dans le trou final. Pourquoi deux fois ? Se demandait Sun. Il y réfléchit des mois sans trouver de réponse. Cette faille qui bâillait après la saison des pluies quand le toit de chaume trop lourd faisait plier ses poutres se refermait doucement au premier jour de canicule, Sun se dit qu'elle était devenue essentielle pour tous. Mésange, guêpe, fourmi et lui-même Sun en vivait. Après la première saison, les heures de jour ne lui suffisant plus, Sun demanda qu'on le porte par les nuits de lune face à son mur. On ne l'en sortit que grelottant de froid. Il demanda à rester là sous la pluie comme au pic du soleil et même un jour de neige, il refusa de rentrer. Il se passionnait tellement pour ce mur lépreux et fendu de haut en bas qu'on l'entendait pousser des cris d'enthousiasme. Le prince, qu'on tenait au courant, pensa qu'il était atteint de la folie des vieillards, et il s'en réjouit. Il ordonna qu'on laisse Sun parler tant qu'il voudrait avec son mur. Quand le vieillard demanda une harpe, on la lui donna, en riant. Il apprit seul à pincer les cordes et chanta de courts poèmes où se mélangeaient à sa vie celle des mésanges, des lumières changeantes et des mousses. Tout ce qu'on pouvait dire sur le monde et sur l'homme, il le tira de son amitié avec son mur. Les enfants du village se cachaient à l'ombre des pierres, recopiaient en cachette ce qu'ils entendaient et portaient ses paroles au maître d'école, qui les envoyait en ville. De porte en porte et de bouche à oreille, tout le royaume connaissait les chants du vieux Sun. Qui aurait osé dire au prince que ses poèmes célèbres venaient de celui qu'il avait condamné quelques années avant à réduire sa vie à une façade de torchis ? Mais certains courtisans se prirent à penser que ce mur-là serait bientôt plus célèbre que leur prince. Le visage de Soun, le fou chantant, rayonnait de cette lumière intérieure qu'ont certains papillons, certains hommes qu'honorent la beauté. On parlait maintenant de lui au-delà des frontières. Certains prenaient modèle sur sa vie et s'essayaient à contempler longuement des murs de torchis, de ciment ou de pierre. Ils annonçaient que le bonheur existe et que pour le tenir, peu importait de contempler une belle femme, une société juste ou un tableau de maître. L'important, c'était la qualité du regard, bien plus que ce qu'on regarde. De cette lézarde, bourrée de paille à mésange, de brins à fourmis et de boue à guêpes, des milliers de disciples invisibles parlaient à l'insu du prince et du pouvoir. Ils allaient même jusqu'à dire que la perfection ne se trouve jamais dans la puissance, mais dans les choses du commun. Les plus beaux scarabées ne courent pas au soleil. On les découvre en retournant les cailloux du chemin. Sous la pierre, on a besoin de beauté, comme sous la nuit, les songes sont nécessaires. Peu à peu, le vrai pouvoir échappait au prince. Personne ne s'opposait ouvertement à lui, mais personne ne l'aidait. Les corps travaillaient et les esprits couraient ailleurs. Au pied de son mur, Soun chantait toujours, mais sa voix s'entendait à peine et le couple de mésanges 10 fois avait changé. On vint le jour de dire au monarque sa vérité. Il n'était plus que le roi des choses, un roi telé, bon pour l'oubli. Le monde entier ne connaissait de son royaume qu'un vieil homme devant son mur. Furieux, le prince vint accompagné d'un maçon, et tandis que Soun chantait, l'autre boucha la lézarde, crépit la façade et la passa à la chaux vive. Alors, Soun des mésanges, Soun des fourmis, Soun l'hypocrite qui m'a si longtemps trompé, tu sembles triste. Triste ? Je le suis, car je n'aurai jamais assez d'années devant moi pour connaître et aimer ton nouveau présent. Que d'autres viennent. Et Soun, ça fait ça, face au mur. Yves Heurté, Claire Forgeau, le livre de la lézarde. Pour ce mois-ci, je vous invite tout simplement à retrouver le dernier numéro paru de la revue La Grande Oreille, dédié aux arts du récit et consacré ce trimestre au chemin. Outre de nombreux contes et articles consacrés au chemin, on y trouve aussi un bel hommage à Jean-Claude Carrière qui s'est éteint le 8 février dernier. Vous trouverez sur la page de cette émission toutes les références aux contes, musiques et extraits lus au fil de l'émission. Je remercie Pauline Lemaire-Desmarais pour la réalisation. On se retrouve début novembre pour une prochaine émission sur les ondes de Radiola. Et puis d'ici là, restons libres.